Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Et bonsoir à toutes et tous. Alors, ce soir, on a le plaisir de recevoir Asia Zaino, qui est auteure d'un livre publié aux éditions Agone qui s'appelle « Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens ». Donc peut-être pour commencer, Asia, tu pourrais nous expliquer comment est né ce projet, d'où vient ton intérêt pour la Palestine et puis pourquoi est-ce que tu en es venue à t'intéresser plus précisément au rôle de la prison.
Oui, bonsoir. Donc ce livre est le résultat de plusieurs séjours en Palestine et d'un mémoire qui avait porté sur les rôles de la prison dans la société palestinienne et donc de l'influence que l'incarcération et la dimension carcérale a sur l'imaginaire, sur la vie, sur les quotidiens des Palestiniens. Moi, j'étais partie en Palestine la première fois après avoir fini ma licence. C'était pas vraiment pour des raisons académiques, ou c'était plutôt pour un sens de solidarité avec un peuple en lutte contre l'occupation, parce que j'avais envie de voir ceux dont je lisais depuis longtemps. Et donc, quand je suis arrivée en Palestine, pendant la deuxième semaine que j'étais en Palestine, j'ai rencontré Bassim Tamimi, qui est un des protagonistes de ce livre. Et il était recherché par les Israéliens parce que il organisait des manifestations dans son village, Nabi Saleh. Il s'est caché pendant un moment à Bir Zeit, là où on était, parce que c'était un village où il y avait des étudiants internationaux qui étudiaient, donc la maison était plus sécurisée. Une fois qu'il est sorti, une fois qu'il est parti de cette maison, il a été arrêté et il est resté un an et demi en prison. Et donc moi, je suis allée au village, j'ai rencontré sa famille, sa famille très élargie, parce que en fait le village de Nabi Saleh, dont viennent tous les protagonistes de ce livre, est un petit village des 500 personnes qui font tous partie de la même famille élargie, s'appellent tous Tamimi. Et c'est un village qui, comme beaucoup d'autres villages palestiniens, a une longue histoire de résistance et une longue histoire de répression, donc, de la part des soldats israéliens. C'est un village qui est entouré par deux colonies. Et donc la colonie d'en face en particulier, qui s'appelle Halamish, c'est une colonie qui a été fondée en 1977. Elle n'a pas cessé de s'élargir à détriment des terres des Palestiniens. Et en 2009, ils ont confisqué la source que les Palestiniens de Nabi Saleh utilisaient pour l'agriculture, mais aussi comme endroit où aller se reposer le vendredi, etc. Et surtout, c'est une source qui donne accès à toutes les terres qui étaient des propriétés des habitants de Nabi Saleh et qui ont été confisquées par les colons. Tous les vendredis, depuis 2009, les villageois de Nabi Saleh se sont réunis en comité populaire. Et depuis 2009, donc, tous les vendredis, ils organisent des manifestations qui ont comme but d'aller à la source confisquée. Depuis 2009, ils ont pu arriver à la source qu'une fois, parce que bah, à chaque fois, le village est entouré par l'armée israélienne, il y a un couvre-feu qui est décrété. Dès que la manifestation est tout de suite réprimée très violemment. Et donc moi, la première fois que je suis arrivée à Nabi Saleh, c'était un vendredi, juste après la manifestation. Et donc dans le même jour, il y avait deux frères jumeaux dont l'un venait de sortir des prisons et l'autre venait d'être arrêté le même jour. Un peu plus loin sur les chemins, il y avait les enfants du village qui jouaient à Jeshu Arab, que c'est le jeu préféré des enfants de Nabi Saleh, c'est l'armée et les Arabes et les Palestiniens. Et donc ils libéraient dans leur jeu les prisonniers qui avaient vu être arrêtés lors de la manifestation. Ils jouaient avec les lacrymogènes, avec toutes les traces de la manifestation qui avait eu lieu l'après-midi. Et le soir, j'ai dormi à la maison des Bassim, qui à l'époque était en prison. Et donc, il y avait des groupes de femmes dont le mari était en prison ou le fils était en prison, qui s'organisaient pour payer la cantine, pour amener des livres aux prisonniers. Et donc, enfin, je me suis rendu compte que la prison était vraiment, enfin, je commençais à me poser la question du rôle et de la dimension de la prison dans la vie des Palestiniens, dans leur quotidien, dans leur imaginaire. Et après, j'ai écrit un mémoire sur ça. Et sur le mouvement des prisonniers qui se développe dans les prisons israéliennes à partir des années 70. Et donc, avec les éditeurs d'Agon, enfin, avec Marie en particulier, on a retravaillé mon mémoire pour que vraiment les entretiens ne soient pas vus comme juste une source pour les sciences sociales, une source pour l'anthropologie ou la sociologie, mais que ça soit vraiment eux les protagonistes, donc qui est vraiment la parole de plusieurs générations des prisonniers et des prisonnières de Nabi Saleh, et sans qu'il y ait un intermédiaire pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'il y ait leur parole qui est présentée. Et donc c'est un peu comme ça qu'est né ce livre. Et voilà, moi je préfère qu'il y ait des interactions avec le public, s'il y a des questions et tout, n'hésitez pas.
Est-ce que tu peux du coup revenir un peu sur ces entretiens? C'est un livre, comme tu dis, où les entretiens prennent la majeure partie de la classe. Il y en a à peu près, il y en a 13. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la manière dont ça s'est passé? Tu as habité pas mal chez Bassim et Nariman, expliquer les gens que tu as rencontrés, dans quel contexte tu les rencontres?
Donc j'ai habité pendant, en total c'était deux ans, mais donc j'ai fait six mois, toujours dans la maison de Bassim et Nariman. Alors, Bassim, il a été en prison 10 fois dans sa vie. Nariman 5, son fils aîné, il a été, à l'époque où j'ai fait l'entretien, il avait 14 ans, il avait déjà été en prison. Là, il vient de sortir après un an et demi de prison. Là, il a 19, 20 ans. Et donc j'ai vécu dans cette famille. J'ai commencé à créer des rapports d'amitié très forts, et c'est aussi pour ça que donc avec certains des prisonniers interviewés, il y a aussi un côté plus intime qui est parfois dévoilé, où ils racontent leur expérience, pas que leur expérience de lutte, mais aussi leur expérience personnelle, comment la prison a envahi leur quotidien, le quotidien de leur famille, etc. À Nabi Saleh, donc ils font tous partie de la même famille, et la prison, ça fait vraiment partie d'une sorte de patrimoine mémoriel qui est partagé. Donc il y a les arrestations jouent souvent le rôle des références chronologiques qui sont partagées par tous les villages. Donc il y a certains événements, pour parler de certains événements, on se réfère à le jour de l'arrestation d'un tel, le jour de la libération d'un autre. Et donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'un sort sorte de voilà, des mémoires qui est transmise, des mémoires de lutte, de résistance qui est transmise de père en fils, de cousin en cousin. Donc les protagonistes de ces livres, c'est donc plusieurs prisonniers des différentes générations à partir de ceux qui ont été arrêtés à partir des années 80 dans le cadre de la première intifada, mais même avant, certains dans le cadre de la lutte armée, d'autres parce qu'ils organisaient des manifestations considérées illégales par l'occupation. Et après, il y a la nouvelle génération des Shabab, des adolescents, qui ont été arrêtés dans la vague d'arrestations massives qu'il y a eu après 2009, donc après qu'il y a... qui a eu ces manifestations tous les vendredis. Les protagonistes de ce livre ont des expériences différentes parce que certains ont été arrêtés, ont été en détention administrative, comme Bassim, qui donc il a été arrêté 10 fois, mais il n'a jamais passé plus de 2 ans en prison, ce que pour un Palestinien, c'est pas beaucoup. Et la détention administrative, c'est un héritage du mandat britannique et permet de garder en prison sans chef d'occupation, sans que le prisonnier et parfois l'avocat et parfois même le juge sachent quelles sont les accusations, et cette détention peut être renouvelée tous les 6 mois. Donc il y a des prisonniers qui sont restés en prison 8 ans sans savoir pourquoi. Et en fait, pour le prisonnier même et pour les familles, c'est très dur parce que ça veut dire que tous les 6 mois, le village, la famille, le prisonnier se prépare à sortir. Et en fait, ils lui disent non, tu vas pas sortir. Et ça, ça arrive de façon continuelle. D'autres protagonistes de ce livre, comme Nizar, Ahlam, Saïd, c'est des prisonniers qui ont été condamnés à plusieurs peines à perpétuité. Certains à trois ou quatre peines à perpétuité, Ahlam à 8 peines à perpétuité. Et donc ils sont sortis dans le cadre de l'échange Shalit avec un millier d'autres prisonniers palestiniens. Il y a après les témoignages de la génération des adolescents qui sont tous qui étaient à l'époque pour la plupart soit ils avaient 14, 15, 18 ans et qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations, accusés de participer à des manifestations illégales parce que ça suffit, enfin la cour la justice, pour juger les Palestiniens, c'est la justice militaire. Donc, c'est que la cour militaire où le juge, l'avocat, ils sont tous des soldats. Et donc, pour emprisonner quelqu'un, ça suffit qu'un soldat dise, même si le soldat n'était pas là à ces moments-là, il dise « oui, je l'ai vu, il était en train de jeter de pierre ». Et ça permet de garder en prison de façon indéfinie ça a permis de garder en prison plusieurs jeunes du village. Et dans ce livre, il y a aussi les témoignages des 4 femmes qui racontent leur expérience à la fois certaines à la fois en tant que prisonnières elles-mêmes, mais aussi et surtout en tant que mère des prisonniers ou que compagne des prisonniers, fille de prisonniers. Parce que quand quelqu'un est arrêté, un des personnes interviewées disait que quand quelqu'un est arrêté, c'est toute la famille qui se retrouve en prison. Parce qu'avoir un proche en prison, ça veut dire devoir organiser... les visites, devoir organiser les visites, que depuis que toutes les prisons ont été déplacées sur territoire israélien, ce qui est illégal selon les droits internationaux, les droits humains, etc., la Convention de Genève. C'est très compliqué l'accès aux visites pour les prisonniers parce qu'il faut avoir un permis des autorités israéliennes pour accéder au sol israélien. Et donc, ceux qui ont déjà été en prison ne peuvent pas ne peuvent pas aller visiter leurs proches en prison. Les hommes entre 15 et 50 sont souvent interdits d'entrer sur territoire israélien. Donc les visites, ça devient vraiment une question des femmes. C'est elles qui font souvent le tour des prisons quand ils ont plusieurs enfants en prison. Donc ils font les tours, ils vont d'une prison à l'autre, qui amènent les messages des autres familles qui n'ont pas pu visiter leurs proches, et donc organiser les visites qui créent aussi des réseaux de solidarité entre les différentes familles qui s'occupent de contacter les avocats, etc. Et donc les visites, ça veut dire aussi partir à 4h du matin et rentrer vers 1h pour une visite qui dure à peu près 40 minutes. Donc beaucoup des femmes interviewées racontent, celles qui ont fait aussi l'expérience des prisons, certaines disent que c'est plus dur d'être dehors, pour plusieurs raisons, aussi pour le regard que la société peut porter sur elle, pour sur la femme qui se trouve donc toute seule, sans son mari, dans le cadre de Nabi Saleh, c'est quelque chose qui ne ressort pas trop, ou en tout cas qui n'est pas très mise en avant, parce qu'effectivement, une des spécificités aussi de Nabi Saleh, c'est la participation, c'est une grande participation des femmes. Dans la lutte, dans la résistance, et aussi vraiment dans l'organisation des stratégies, des manifestations, etc. Donc cette question de la difficulté que la femme seule se trouve dans le village n'est pas très mentionné par les femmes de Nabi Saleh, mais c'est quelque chose que j'ai rencontré en faisant des entretiens avec des femmes d'autres villages que bon, elles n'apparaissent pas dans les livres. Après, j'ai oublié de dire que donc là depuis 1967, donc depuis l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem Est, du Golan, etc., plus d'un tiers de la population palestinienne est passée par les prisons, ce qui veut dire que dans chaque famille palestinienne, il y a minimum un prisonnier. Et donc la prison, ça devient vraiment aussi une histoire de famille, une histoire de village, une histoire. Enfin, c'est aussi souvent utilisé comme métaphore de la Palestine, comme une grande prison à l'intérieur duquel il y a plusieurs cages, plusieurs petites prisons qui ont été dressées. Et donc, à Nabi Saleh, comme partout ailleurs en Palestine, la prison, c'est vraiment quelque chose avec qui les Palestiniens ont affaire toujours, enfin, à la fois en tant que prisonniers ou à la fois en tant que proches des prisonniers. Et c'est une réalité qui est toujours présente. Donc, parfois, à Nabi Saleh, je peux remarquer comment la vie s'organise aussi autour de la prison. Dans le cadre des Bassim, par exemple, quand j'étais à Nabi Saleh, il a été hors des prisons que 6 mois entre une arrestation et l'autre. Et donc pendant ces 6 mois, c'était essayer vraiment de régler toutes les choses pratiques le plus vite possible avant une prochaine arrestation. Et donc sa compagne lui donnait des cours de conduite parce qu'il avait jamais été hors des prisons le temps nécessaire pour apprendre à conduire. Il pensait à projeter la chambre pour les enfants. Et donc c'était vraiment quelque chose c'est vraiment une réalité qui est toujours présente dans la vie des Palestiniens et aussi dans la définition de leur futur. Il y avait plusieurs jeunes qui avaient 12, 13, 14 ans et qui disaient de toute façon, j'irai en prison un jour ou l'autre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie presque du parcours des Palestiniens. Un jeune qui sortait des prisons un jour a dit maintenant je suis devenu un vrai Palestinien. Maintenant que j'ai fait la prison, je suis devenu un vrai Palestinien. Et ouais.
Du coup, au cœur de ce livre-là, une des thématiques centrales, c'est comment la prison, qui est un lieu d'isolement et de séparation, est réinvestie comme un espace de lutte. Est-ce que tu peux un peu parler du mouvement des prisonniers, de son évolution à travers le temps ?
Oui. Donc le mouvement des prisonniers, c'est... Le mouvement des prisonniers se crée et c'est... et s'est structurée à partir des années 70, quand donc après, quand il y a une augmentation des colonies, une augmentation des affrontements avec l'occupation, et donc évidemment les prisonniers commencent à devenir, enfin il y a des arrestations massives, les prisonniers commencent à être de plus en plus, et ils commencent à s'organiser. Et au début, les luttes étaient essentiellement pour des biens matériels. C'était donc pour avoir accès aux matelas, aux couvertures, aux stylos, au papier. Et donc c'est à travers ces luttes, à travers des grèves de la faim, à travers aussi parfois des affrontements directs avec l'administration pénitentiaire, en particulier dans les prisons, dans les camps de détention qui étaient dans le désert, où c'était l'armée qui gérait les prisons. Et le mouvement donc commence à se structurer, à se fédérer autour de cette lutte, de ces luttes. Et donc au fur et à mesure, ils arrivent à créer une vraie structure des contre-pouvoirs qui arrive à gérer et organiser chaque instant de la vie des prisonniers et qui permet de ne pas s'adresser à l'administration pénitentiaire. Donc dans chaque prison, il y avait une constitution des prisons qui était votée par les prisonniers, il y avait des élections qui étaient organisées parce que vers les années 80, les mouvements avaient obtenu à ce que chaque nouveau détenu puisse décider dans quelle faction, dans quelle section de la prison pouvoir aller. Il y avait une section qui était gérée par le Fatah, une section par le Front Populaire, une section par le Hamas, mais qui était plus réduite. Donc chaque faction palestinienne, chaque mouvement gérait une section de la prison. Et donc à l'intérieur de ces sections, il y avait des élections qui étaient organisées pour élire les représentants de chaque faction jusqu'à arriver à l'élection d'un représentant, d'un porte-parole des prisonniers qui était le seul qui avait le rôle de dialogue avec l'administration pour ne pas permettre à l'administration israélienne de créer des particularismes et des différenciations. Un des éléments qui revient dans tous les témoignages, c'est le rôle des formations de la prison. C'est vraiment cette idée que, en particulier dans les années 80, la prison a été transformée par les Palestiniens, à la fois en laboratoire de résistance, il était considéré comme un autre front de lutte, et donc il y avait aussi beaucoup de liens entre l'intérieur et l'extérieur. Il y avait des communiqués qui sortaient pendant l'intifada, et avant il y avait des communiqués qui sortaient des prisons pour à la fois en solidarité avec les luttes qui avaient lieu dehors, mais c'était aussi l'inverse. Donc il y avait une forte porosité entre l'intérieur et l'extérieur des prisons et les deux luttes continuaient de façon parallèle à l'intérieur et à l'extérieur. Et la dimension de l'éducation, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Tous les prisonniers qui sont rentrés en prison sans savoir ni lire ni écrire et en sont sortis en sachant lire et écrire. Il y a aussi un prisonnier qui avait été arrêté quand il était adolescent et qui est analphabète et qui est resté 20 ans en prison, et une fois sorti pour une validation d'acquis a pu accéder au master, justement parce qu'à l'intérieur des prisons ça s'est créé une vraie université où donc il y avait des programmes annuels qui étaient élaborés qui couvraient différents niveaux, le niveau de l'école primaire, le collège jusqu'à niveau universitaire. Il y avait des relevés des notes qui étaient écrites par les prisonniers au cas où le prisonnier soit transféré d'une prison à l'autre, pour qu'il puisse être inséré au même niveau. Et par exemple, dans une prison dans le Negev, il y avait un prisonnier qui était un détenu qui était un professeur des sciences politiques de l'université de Beer Sheva et qui donc donnait des cours, et donc beaucoup de détenus voulaient être transférés dans cette prison là pour pouvoir assister aux cours de ce professeur, de ce prisonnier. Donc en particulier vers la fin des années 80, avant les accords d'Oslo, il y avait vraiment une grosse structuration de ce mouvement. Il y avait l'emploi du temps du prisonnier était très réglementé. Il y avait minimum 5 heures de cours par jour. avec une liste des livres presque obligatoires à lire pour chaque prisonnier qui rentrait, qui variait selon l'orientation politique. Donc le Front Populaire, ils étudiaient plutôt les révolutions qui avaient eu dans le monde. C'était plutôt une courante plutôt marxiste, tandis que le Fatah, ça étudiait surtout le panarabisme, le nationalisme arabe. Donc chaque faction aussi donner des programmes différents, mais après il y avait des cours qui étaient communs où tous les prisonniers se retrouvaient. Évidemment, tout ça, ça a été gagné à travers des luttes constantes, des luttes très fortes, parce que au début, les prisonniers n'avaient accès ni au stylo ni au papier. C'est à travers les grèves qui ont obtenu, qui est à travers la Croix-Rouge et les croissants rouges, ils puissent avoir accès aux livres, évidemment pas les livres politiques, mais qui quand même commençaient à rentrer de façon clandestine. Le premier livre qui a été écrit en prison, c'était, vu qu'il n'y avait pas de stylo, pas de papier, il a été écrit sur l'emballage de la margarine, donc en utilisant l'emballage de la margarine comme page, et après, de façon clandestine, ce livre est sorti, il a pu être publié. Et ça, c'est le cas de beaucoup de livres qui ont été produits en prison, qui c'est à la fois des essais politiques, des romans, des poèmes, des recueils de poèmes. Il y avait un système très élaboré qui s'appelait le capsula. C'était justement dans les livres politiques où les communiqués, ils étaient écrits sous forme d'un code et après ils étaient mis ils faisaient des petites boules, le prisonnier les avalait et après ils étaient transférés d'une prison à l'autre et dans chaque prison il y avait une personne qui était responsable de décoder ces codes et donc de retransformer ces textes en livres. Et donc c'est comme ça que dans les années 80, dans chaque prison, ils ont pu constituer une grosse bibliothèque des livres interdits, qui après, évidemment, ils étaient souvent détruits. Mais donc tout ça, ces résultats, ils ont été obtenus à travers des fortes luttes. Un peu l'évolution du mouvement des prisonniers. Après, les prisonniers de Nabi Saleh, ils appartiennent tous, à part deux. Il y a un habitant du Hamas et un habitant du Front Populaire. Et tous les autres sont du Fatah, même s'ils sont très, très critiques envers la politique de l'autorité palestinienne et la politique officielle de l'organisation aussi. Mais donc l'histoire qui raconte l'évolution du mouvement des prisonniers, c'est une histoire qui est partagée, qui est transmise, mais c'est une histoire qu'il faut considérer aussi en tenant compte le profil des personnes interviewées, parce que par exemple ils sont tous d'accord sur le fait que les accords d'Oslo ont été une césure à la fois dans l'histoire palestinienne et dans l'histoire du mouvement des prisonniers, et qu'à partir des accords d'Oslo, le mouvement n'a pas pu être si puissant, si fort qu'auparavant. Les accords d'Oslo, soi-disant des accords de paix, après les accords d'Oslo, donc la plupart des prisonniers sortent, même si c'est pas le cas de tous les prisonniers politiques comme ça aurait dû être, et les arrestations ne cessent pas, au contraire, elles recommencent très vite. Mais donc après les accords d'Oslo, c'est compliqué de se réorganiser parce qu'ils sont beaucoup moins. Les arrestations visent principalement des militants du Hamas qui donc prend un peu le pouvoir dans les prisons. La plupart des prisonniers des anciennes générations critiquent un sort de repli individualiste des nouvelles générations. Ils disent que, par exemple, sur le plan toujours de l'éducation, à leur époque, c'était impossible qu'un prisonnier ne partage pas ses connaissances avec les autres. Donc, si quelqu'un était fort en mathématiques, il donnait des cours de mathématiques, on échange des cours d'hébreu, des français, etc. Tandis que maintenant, pour les prisonniers qui ne boycottent pas l'Université de Tel Aviv et qui ont accès, parce que c'est un nombre très réduit de prisonniers qui ont accès aux cours par correspondance, ils disent, les anciennes générations disent que c'est une éducation plutôt individualiste, donc c'est plutôt viser le diplôme plutôt que essayer vraiment de partager, de construire ensemble le savoir, de partager les connaissances, etc. Donc il y a dans ces témoignages, il y a des prisonniers qui ont été en prison à des époques différentes, d'autres qui, comme Bassim et d'autres qui ont été en prison à différentes époques, mais jusqu'en 2009, et qui donc racontent un peu l'évolution, comment ils ont vécu l'évolution de la situation en prison. Et on voit, donc c'est des témoignages qui dialoguent un peu entre eux, qui parfois se recoupent, parfois se contredisent. Il y a une histoire des prisons qui est transmise, et donc la plupart des Shababs qui étaient d'adolescents qui n'étaient pas nés en 87, en 89, quand il y avait la première intifada, ils disent tous que la première intifada c'était le meilleur moment du mouvement des prisonniers, etc. Et donc ils sont d'accord sur le fait que maintenant c'est différent par rapport à comment leurs parents leur racontaient la prison, mais quand même dans les discussions ils veulent aussi montrer que pour eux aussi la prison a été un laboratoire des formations révolutionnaires politiques, que eux aussi ils ont affronté l'interrogatoire, eux aussi ils ont résisté, et que pour eux aussi ça a été vraiment une sorte de rite, presque de rite d'initiation pour s'insérer dans une sorte de tradition militante, une tradition militante du village, de la famille, etc. Et après, ceux qui restent, en fait, aucun de ces prisonniers parle, l'idée qui ressort un peu, l'image qui ressort de ces témoignages, c'est une image un peu édulcorée de la prison. Effectivement, il met l'accent pas tant sur les violences qu'ils ont subies, sur les interrogatoires, les tortures, mais c'est vraiment la volonté de montrer, de parler de ce qu'ils ont été capables de faire, de comment un lieu de répression a été retransformé, redéfini en lieu de lutte, et comment par exemple les leaders de la première intifada, pour la plupart c'était des anciens prisonniers, donc de comment vraiment la prison a été reconstruite comme front de lutte très très engagé, très fort, et donc par exemple il n'y aura pas des récits des tortures, des récits de violences subies. Enfin, ils en parlent parfois, ils font des allusions, mais c'est jamais le centre de leur témoignage. Dans le cadre des familles, il y a plutôt une volonté de dénoncer ça, donc ça ressort plus, mais voilà.
Et tu disais, donc, les membres du FASA que tu as vu ont tendance à penser que le mouvement des prisonniers s'est affaibli après les accords d'Oslo, et il y a dans ce livre un seul témoignage qui n'est pas d'accord avec ça, c'est celui de Nasser, du coup, qui fait partie du Hamas, et lui qui n'a pas du tout la même vision du mouvement des prisonniers. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus?
Oui. Donc Nasser, c'est le seul habitant du Hamas, du village. Bon, c'est un village de 500 personnes, donc c'est pas. Et lui, il a été en prison à partir des années 2000, quand justement le Hamas avait beaucoup de membres en prison, et donc dans les élections des représentants des prisonniers, c'était un peu eux qui géraient. Et pour ça, donc par exemple, la section gérée par le Hamas était très très structurée, très organisée. Les cours, il y avait pareil un emploi du temps comme l'emploi du temps des années 80. Donc il y avait 5 heures de cours, plusieurs cours qui étaient organisés. Et donc là, évidemment, la représentation qu'il donne, c'est différente, parce que pour lui, c'est l'époque qu'il a vécu, c'était l'époque où le parti auquel il appartenait était le plus fort, et donc il était le plus structuré, etc. Il y a cette division entre le Fatah, le Hamas, le Front Populaire à l'intérieur de la prison, c'était pas non plus si net. Par exemple, Bassim, il a été, qui est de, qui est très Fatahoui, de Fatah. Il a été dans la prison, dans la cellule du Hamas, parce que c'était la seule cellule non-fumeur. Et donc, lui, il n'était pas fumeur, donc il a été en cellule avec eux. Il y avait pas mal d'échanges entre les différents prisonniers. Et justement, quand en 2006, il y a eu une division entre le Fatah et le Hamas, à la suite des élections gagnées par le Hamas en 2005, il y a le mouvement des prisonniers a écrit un communiqué en disant parce que ça a été à un moment, ça a été très compliqué, des personnes qui s'étaient de différentes organisations qui s'étaient aussi entretuées, ils se retrouvaient dans la même prison. Donc pour éviter donc ça a donné lieu à beaucoup de problèmes, et le mouvement des prisonniers a sorti un communiqué qui appelait à l'unité nationale et qui mettait en avant leur identité des prisonniers avant toute appartenance politique. Ils étaient d'abord des prisonniers, donc des camarades des luttes, etc. Et donc ça a été, ça n'a pas eu des gros effets dehors, mais donc c'est à la fois il y a une tentative de l'administration pénitentiaire d'aiguiser toutes les différences entre les Palestiniens, et donc par exemple les mouvements des prisonniers avaient beaucoup insisté sur le fait que les prisonniers des différents, que sur le fait de mélanger les prisonniers des différentes provenances. Et donc dans le moment où ça s'est trouvé dans la même prison, les médecins, les paysans, la personne du camp des réfugiés et celui de la ville, de les mettre ensemble pour qu'il n'y ait pas des sortes de régionalisme qui se créent. Tandis que l'administration israélienne essaye de regrouper, donc, de regrouper sur la base de la provenance régionale, et aussi essaye de créer des prisons pour le Hamas, des prisons pour le Fatah, pour augmenter les divisions. Donc il joue beaucoup sur le fait d'exploiter ces divisions, et en réponse, normalement le mouvement des prisonniers met en avant une identité, d'abord une identité des prisonniers, et après tous les particularismes qui suivent. Le témoignage de Nasser est différent. Donc toute l'histoire qui retrace du mouvement, ce n'est pas la même. Et il y a aussi un autre témoignage qui est différent par rapport un peu au cœur, qui sort un peu du cœur des témoignages, et même si pour des raisons différentes, c'est le témoignage d'Islam. Islam, c'est un adolescent qui a été arrêté à l'âge de 14 ans. Et qu'au bout de deux nuits de torture, ils lui ont fait signer un papier où ils avaient marqué, un papier marqué en hébreu, où ils avaient marqué en arabe le nom de Bassim, en disant, si tu signes ça, cette personne qui est marquée, dont le nom est marqué en arabe, il t'attend dehors. Donc lui, il comprenait pas l'hébreu, il a signé, il est resté 6 mois en plus en prison, et sur la base, et le texte en hébreu était en fait tous les chefs d'inculpation contre Bassim. Donc Bassim est resté 1 an et demi en prison que sur la base de ça. Et donc en même temps, si d'un côté les adolescents ont tous un récit très héroïque de la prison, où ils partagent des anecdotes de prison, comment ils ont résisté à tel officier, comment ils ont fait pendant l'interrogatoire, etc. Islam, il est vu que même si c'était pas volontaire, en tout cas il est tombé dans le piège des officiers israéliens. Il est pas complètement dans le groupe et dans une sorte de tradition une tradition héroïque des Shabab de Nabi Saleh, mais c'est et donc lui, par exemple, il raconte la prison comme une expérience très dure, comme une expérience qui a détruit sa vie, parce que il a une fois sorti, après 6 mois d'arrestation, il a été assigné à résidence, il pouvait pas aller à l'école, donc il a raté 2 ans d'école. Là, je suis retournée il y a 2 ans, donc il travaille pas, il étudie pas, il n'est pas non plus inséré dans un réseau d'anciens prisonniers qui permet souvent de trouver du travail en Palestine, parce que donc Bassim, par exemple, il a des amis dans toutes les villages et les villes de Palestine qu'il a rencontrés en prison, et parfois ils font jouer donc ce type de réseau-là. Alors Islam, il n'est pas inséré ni dans ce type de réseau, ni vraiment dans cet héritage héroïque familial à la fois, et des groupes d'amis du village. Et donc c'est un peu les deux témoignages qui sortent un peu du cœur.
Moi, je voulais parler un peu de l'actualité, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais le mouvement des prisonniers qui était très important et d'une certaine époque a connu des sacrés reculs.
Ouais.
Et du coup, récemment, là, en juin dernier, il y a un prisonnier du Front Populaire de Libération de la Palestine, le FLP, Bilal Kayed, qui aurait dû sortir après 14 ans et demi de prison. Et l'administration pénitentiaire l'a placé en détention administrative pour l'empêcher de sortir. Sur ce, il a fait une grève de la faim qui a duré plus de 70 jours. Et ça a déclenché un... Alors, d'après ce que j'ai lu, je pense qu'à une certaine époque, le mouvement des prisonniers était bien plus important. Mais la lutte pour la libération de Bilal Kayed et contre le fait qu'il place en administration... En détention administrative, un prisonnier de longue date, ça a déclenché un mouvement des prisonniers assez important. Pratiquement toutes les factions palestiniennes ont pris part à ce mouvement. Et je voulais savoir si toi, tu crois que ces derniers temps, il y a un renouveau du mouvement des prisonniers, si ce mouvement-là... une nouvelle dynamique.
La question des prisonniers, ça reste un élément très fédérateur et un élément qui est encore dans une, par exemple, la Ramallah, où c'est une ville qui a été c'est un peu une bulle, enfin c'est une ville où tu peux d'une certaine façon vivre sans te rendre compte, enfin même si t'es entouré par, enfin tu vois d'un point de vue visuel qu'il y a des colonies un peu partout, mais enfin il y a, voilà, c'est la capitale administrative, il y a l'autorité palestinienne, il y a beaucoup d'ONG, il y a et donc il y a une sorte de pacification, et dès qu'il y a, enfin le mouvement des prisonniers, c'est quelque chose qui au contraire permet toujours, enfin les grèves des prisonniers, les grèves de la faim, c'est quelque chose qui permet toujours de fédérer, de créer des gros mouvements. Après, c'est toujours d'un côté, la question des grèves de la faim, c'était une question dont parlent certains des prisonniers. À partir de Khader Adnan et d'autres, il y a eu plusieurs grèves de la faim qui ont commencé un peu comme grève de la faim individuelle. Après, certaines ont été suivies par une partie du mouvement, etc. Mais que certains prisonniers, tout en respectant le sacrifice, le courage, etc. du prisonnier en grève de la faim, il disait que les grèves et les grèves individuelles quand même posent pas mal de problèmes, à la fois parce qu'ils montrent la faiblesse du mouvement, parce que ça crée un précédent, parce que des grèves des 70 jours, des 80 jours, des 100 jours, si un jour il y a une grève collective, si dure moins que ça, les autorités peuvent dire oui, bon, ils peuvent, en fait, si... Une des grosses grèves qui avait été un gros succès dans les années 90 et qui est toujours rappelée comme les modèles de la grève, avait duré que 14 jours, mais ils avaient obtenu l'accès aux livres, ils avaient obtenu l'accès aux visites, et donc ça crée aussi un précédent, à la fois pour qu'ils montrent la faiblesse, mais parce que ça lève la barre des jours qu'il faut faire grève, et en même temps enfin les prisonniers palestiniens sont aussi l'autorité palestinienne se réapproprie parfois de ce mouvement, donc lors de la journée du prisonnier ou en tout cas dans des situations plutôt officielles où donc ils font leur cérémonie à Ramallah avec des portraits des prisonniers les plus célèbres, des Barout et des Sadat aussi, enfin d'autres prisonniers célèbres, et ils font des gros discours rhétoriques sur l'héroïsme des Palestiniens en prison, etc. Mais après, dès que moi j'étais pas là à l'époque, mais j'étais là à l'époque de Samir Issaoui, de Khader Adnan, etc. Et donc il y avait dans chaque ville palestinienne des tentes, des soutiens, etc. Et donc d'un côté il y avait les mères des prisonniers qui avaient avec leur portrait raconté l'histoire de leurs proches en prison, et de l'autre côté il y avait les femmes et les hommes qui voulaient les jeunes qui voulaient aller donc à partir de la place de Ramallah se dirigeaient vers Ofer, que c'est la seule prison qui est encore en territoire palestinien et qui donc est joignable à travers Ramallah. Et en fait, il y avait souvent la police palestinienne en fait qui les arrêtait, enfin qui essayait de limiter les affrontements, et de donc c'est à la fois quelque chose dont ils s'approprient d'une certaine façon et qu'en même temps ils essayent de ne pas trop laisser exploser aussi. Il y a eu dans l'histoire et aussi dans l'histoire de l'autorité palestinienne, si enfin après les accords d'Oslo, pas mal de détenus ont été un peu intégrés dans l'appareil étatique de l'autorité. Avec les temps, ils ont été pour la plupart mis à l'écart. Donc ils ont préféré de mettre des bureaucrates dans les ministères parce que c'est moins explosif, parce que ça met moins en discussion le pouvoir, c'est plus, et donc il y a eu une sorte de ONGisation de la résistance, enfin beaucoup de militants ils se sont retraduits dans les ONG, ils ont leur militantisme a été très marginalisé, et donc oui d'un côté enfin le fait qu'il y ait plusieurs, parce que en fait là beaucoup de prisonniers sont en détention administrative, et donc quand j'en parlais avec certaines des personnes que j'ai interviewées, l'idée c'était, enfin ils disaient oui c'est très bien qu'à la fin ils puissent sortir et qu'à la fin ils aient annulé sa détention administrative, mais enfin, il aurait dû y avoir une grève continuelle de tous les prisonniers pour que tous les prisonniers en détention administrative sortent. Et là, actuellement, je pense qu'ils n'ont pas les forces pour ça. Après, bon, c'est... Ouais.
Ce sont des prisons où il n'y a que des Palestiniens entre eux, mais...
Pour les hommes, pour la plupart, oui. C'est pour les mineurs. Il y a des prisons que pour mineurs, mais sont pas beaucoup. Il y a souvent les mineurs, ils sont mis aussi avec les détenus israéliens des droits communs. Les femmes sont avec les prisonnières israéliennes des droits communs. Mais dans la plupart des prisons, c'est des prisons, en particulier les camps des détentions, et en tout cas oui, la plupart des prisons c'est des prisonniers, c'est que des prisonniers palestiniens. Après, dernièrement, il y avait eu dans le cadre de la répression des attaques au couteau, ou soi-disant ils ont pour punir et humilier certaines et certains adolescents, ils les ont mis aussi des filles avec avec des prisonniers israéliens des droits communs et dans la même prison.
Des grèves de la faim, quand on entend parler à quel moment est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on entend parler des prisonniers, par exemple, est-ce qu'il y a des publications, est-ce qu'il y a des émissions à la télé ou à la radio, est-ce qu'il y a des articles qui en parlent régulièrement?
En Palestine, il y a le ministère des prisonniers de l'autorité palestinienne, mais qui fait des publications. Oui, en Palestine, il y a un ministère qui c'est le ministère des affaires des anciens détenus et des détenus, et donc il s'occupe de verser un salaire aux familles des prisonniers et dans l'idée de la réintégration des prisonniers dans la société. Donc trouver un travail, une formation, etc. Donc eux, ils font des publications. Il y a Ad-Damir, Ad-Damir c'est une association de soutien aux prisonniers. Il y a Ad-Damir Al-Haq. C'est des associations qui s'occupent de la défense des prisonniers, mais souvent c'est très compliqué parce qu'en fait dans les cours israéliennes il faut que ce soit un avocat israélien ou un avocat palestinien qui habite en Israël, et Ad-Damir, son siège c'était à Jérusalem, et il a été détruit, donc ils n'ont plus le droit d'être à Jérusalem et donc de pouvoir défendre à Jérusalem certains prisonniers. Et donc, il y a des publications qui concernent justement plutôt les violations des droits humains, des droits des prisonniers, les violations... Il y a des publications de ce type-là. Et après, dans la vie quotidienne en Palestine, c'est... on en parle à la télévision, oui, parfois il y a sur la chaîne Palestine, il y a souvent des reportages sur les prisonniers ou avec des anciens prisonniers qui parlent. Et après, oui, non. Après, c'est un élément plutôt visible dans le sens où il y a des manifestations. Enfin, dès qu'il y a une grève. Dès la fin, même si individuel, il y a souvent un mouvement de soutien qui se crée, qui ne dure pas hyper longtemps, mais qui est quand même se crée, donc rend visible la cause, la situation du détenu particulier. Quand des détenus en grève dès la fin ont été nourris de façon forcée, ou ils se sont trouvés à l'hôpital parce que ça faisait 70 jours qu'ils étaient en grève de la faim. Il y a eu devant les hôpitaux, il y avait beaucoup de Palestiniens de 48, enfin les Palestiniens qui habitent en Israël, qui sont allés devant les hôpitaux. Donc il y a eu des gros affrontements avec l'armée israélienne, aussi avec des groupes de sionistes qui venaient, etc. Mais donc oui, non, c'est quelque chose qui fait. Après, il y a le musée du prisonnier. Abu Jihad, c'est un gros musée qui se trouve à Abu Dis, à l'université d'Abu Dis, où il y a tous les archives des lettres, des journaux intimes, des romans, des communiqués qui ont été écrits en prison à partir du mandat britannique jusqu'à aujourd'hui. Et donc il y a aussi ces capsules-là dont je parlais, avec tous les livres en code. Et il y a aussi un applause. Il y a un fonds de 8000 livres qui ont été entre les mains des prisonniers palestiniens entre 67 et 94, quand la prison, qui était une prison israélienne, a été transformée en prison palestinienne parce que l'autorité est arrivée. Et donc, ils ont donné ce fonds de 8000 livres à la bibliothèque de Naplouse. Donc, c'est des livres à la fois écrits en prison et à la fois qui ont été entre les mains des prisonniers. Donc, il y a tous les commentaires, le journal d'Anne Frank, l'orientalisme d'Edouard Saïd, il y a des livres de médecine, des mathématiques, des français. Il n'y a pas beaucoup de publications. Adamir fait une sorte de bulletin sur combien de prisonniers, combien d'hommes, combien de femmes, combien de mineurs, sur les prisonniers malades, sur les... Mais, donc Adamir, c'est un peu... Pour suivre l'actualité des prisonniers, c'est Adamir qui... Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Ouais. Moi, j'avais une question, mais c'est un peu une question... Vous avez aucun diable, c'est les prisons palestiniennes, les prisonniers qui vont dans les prisons palestiniennes.
Les prisonniers qui vont dans les prisons palestiniennes, c'est... moi, j'en ai... En abyssal, les prisonniers palestiniens qui vont, bien sûr, parce que c'est que des prisonniers palestiniens, ils sont, il y a des violations, pareil, il y a des violations, il y a des prisonniers du Hamas, certains, il y a d'autres prisonniers, ils sont pareil torturés, ils sont eux aussi torturés, souvent dans le cadre des interrogatoires. Moi, après, j'ai pas une expérience, enfin, en abyssal, il n'y en avait pas, et je me suis pas intéressée à ça, spécifiquement. Mais oui, il y a tous les prisonniers des droits communs qui sont dans les prisons de l'autorité palestinienne, et il y a aussi des prisonniers considérés comme opposants, ou en tout cas, il y a eu dans le moment où il y avait une grosse tension entre le Fatah, le Hamas, etc., il y a eu une campagne quand même répressive envers les militants du Hamas. Pour beaucoup, ils en sont sortis, mais il y en a toujours qui sont dans les prisons. Mais je n'ai pas trop d'informations par rapport à ça.
Il faut savoir comment c'était vu dans la société palestinienne.
Comment c'était
ressenti
Quoi les je pense que c'est pas la même, enfin que en tout cas il enfin que justement que je pense pas que les prisonniers des droits communs palestinien soit vu et soit considéré, enfin, soit vu et soit considéré, parce que c'est pas la même chose, soit non, parce que c'est les prisons de l'occupation où tu rentres parce que tu as lutté contre l'occupation. Et donc, certains prisonniers, ils. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas connu des personnes qui ont été dans les prisons, qui ont été à la fois dans les prisons, qui ont été dans les prisons palestiniennes, en Abyssal. Bah, j'ai connu un jeune qui était en prison pour des questions du shit, enfin, du hashish, et que, donc, lui, il avait été aussi en prison en Israël. Et évidemment, pour lui, ça a été très dur après d'être en prison en Palestine, parce qu'il avait été en prison en Israël, et donc il avait, comme son père, comme son oncle, il avait été sorti comme, voilà, comme un jeune qui était en prison en Israël, donc un héros, etc. Et après, il s'est retrouvé en prison en Palestine. Et là, évidemment, le regard de la société, c'est pas le même. Donc, c'est pas la même chose.
Tu peux revenir du coup un peu sur le groupe de jeunes avec qui tu parles dans le livre, leur rapport à la prison, la manière qu'ils ont de valoriser leur héritage militant. Ils viennent tous de familles militantes. Mmh. Comment ça se passe entre...
Justement, c'est parce que les jeunes avec qui j'ai fait l'entretien, ils sont tous issus des familles très militantes. Donc il y a pour la plupart une sorte un héritage militant qui est transmis. Et donc par exemple dans le cas de Wad, qui était le fils de Bassim et Nariman, il a été arrêté à l'époque quand j'étais là, il a été arrêté juste pendant une semaine. Il avait 14 ans. Mais depuis longtemps, on savait qu'il allait être arrêté parce qu'un anarchiste israélien qui était un ami de la famille et qui avait vu son nom dans les fichiers de l'armée. Et donc, il avait prévenu la famille. Et donc, c'était... enfin, chaque jour, la famille et Wad s'est préparé à la prison. Donc, il avait arrêté de mettre son pyjama. Il était avec son maillot t-shirt du Real Madrid pour être prêt une fois que les soldats seront arrivés pour l'arrêter. Il y avait chaque nuit, il y avait le petit frère qui mettait des petits clous, des petits bouts de verre devant la porte pour empêcher aux soldats d'entrer ou pour trouer les roues. Bon, c'était pas, ça n'a pas trop marché. Il y avait aussi la mère Nariman, la mère de Wad, le préparait chaque nuit à la prison, donc lui donnait son père en exemple, lui disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, quelles étaient les stratégies pendant l'interrogatoire, et pareil, les cousins qui avaient déjà été en prison, donc il y avait vraiment une sorte de préparation, Et donc, il y a aussi un sort de poids d'un héritage militant que les jeunes ont et qui sont aussi au moment de l'interrogatoire. Il y a une vraie préparation de l'interrogatoire qui s'est fait à la fois à l'intérieur de la famille et s'est fait aussi dans le mouvement des prisonniers. Pendant les années 70, le Front Populaire avait sorti un manuel qui s'appelait « Affrontement derrière les barreaux ». C'était vraiment le mode d'emploi de l'interrogatoire. Et ça se fait à la fois à l'intérieur de la famille et à l'extérieur. Et donc, dans les discours de ces jeunes, la prison est vraiment... elle devient un lieu aussi des mémoires. Donc, ils sont tous passés plus ou moins par la même cellule parce qu'ils étaient pour la plupart mis à offer. Enfin, à part certains qui après ont été transférés. Et donc, par exemple, Jihad, lui, il a été à offer. Et après, il a été transféré dans une autre prison. Et pour lui, la prison a été vraiment une tentative de reparcourir les traces de son oncle qui était condamné à plein de peines à perpétuité, qu'il pensait ne jamais plus voir, son oncle Saïd, et qui est donc pareil, il était toujours, c'était un peu le prisonnier célèbre du village, le prisonnier sur lequel il y avait plein d'histoires, plein d'anecdotes, qui étaient des histoires aussi polyphoniques, où tout le monde connaissait l'anecdote, et donc tout le monde participait à le créer. Et donc, Jihad, quand il a été transféré d'une prison à l'autre, c'était vraiment pour la seule chose à laquelle il pensait, c'était je vais rencontrer mon oncle. Est-ce que c'est la prison où il y a mon oncle? Et en fait, c'était pas celle-là. Et donc, il essayait de reconstruire un peu le parcours que son oncle avait eu en prison à travers les récits des autres camarades des prisons qu'il avait rencontrés. Et donc, et ça, ça arrive souvent. Enfin, souvent, les jeunes qui ont été en prison qui ont été emprisonnés rencontrent des camarades, des anciens camarades de leur père ou de leur oncle, ou en tout cas des membres de leur famille. Et donc il y a toujours la fierté de dire ah, ils m'ont reconnu comme un tamim, ils m'ont reconnu comme le fils de mon père, etc. Ils ont vu que j'avais la même attitude. Il y a toujours une tentative de se réinsérer dans une sorte d'héritage militant du village, de la famille. Et eux, ils mettent beaucoup en avant comment ils ont résisté. Comment ils ont résisté à l'interrogatoire, comment la prison, en tout cas, c'était une césure dans leur vie, mais qu'il les a changés, ils ont mûri, etc. Et donc, ça c'est pareil, ça fait vraiment partie d'un... Il y a aussi une sorte de lexique des prisons qui est réemployé, dont ils se réapproprient les jeunes, et donc pour parler de la cour... au lieu de parler de la cour, il parle d'Alfora, que c'était la cour de la prison. Pareil, les lits superposés. Enfin, il y a beaucoup de blagues sur la prison. C'est aussi des façons de la rendre moins. Donc, il y a d'un côté le fait que tous les jeunes savent ceux qu'ils vont affronter en prison, savent qu'ils vont être torturés, savent qu'ils vont être humiliés, etc. Mais en même temps, il y a une sorte d'attente de vivre cette expérience pour pouvoir être eux aussi. Pour pouvoir eux aussi prouver cette résistance devant les officiers, ce combat, pour pouvoir enfin leur aussi vivre cette expérience dont tout le monde parle. Et donc il y avait parfois des petits frères des Shabab avec qui je faisais les entretiens qui venaient me voir en disant tu sais hier ils ont fait une incursion l'armée ils m'ont pris en photo donc peut-être ils vont m'arrêter, peut-être ils vont faire un entretien avec moi aussi une fois que je serai sortie. Donc c'était, même si après, enfin une fois qu'il, enfin après l'expérience elle est évidemment très dure, mais il y a aussi une sorte de c'est un rapport ambigu, il y a une sorte d'attente aussi d'y aller pour voir qu'est-ce que c'est la prison et comment eux ils vont l'affronter.
C'était pour revenir sur les échanges de prisonniers quand il y a eu toutes ces libérations là, ça a quand même dû faire un effet justement, des oncles qui pensaient ne jamais sortir, des gens qui étaient. Est-ce que tu as témoignage par rapport à ça et nous rappeler un petit peu le contexte, comment ça s'est passé?
Nizar, Ahlam sont sortis dans le cadre de l'échange Shalit. Shalit, c'était un soldat israélien qui, dans le cadre d'une campagne militaire israélienne à Gaza, il a été pris, enlevé par le Hamas. Il a été cherché pendant 5 ans, ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, ils ont décidé que la vie d'un soldat israélien équivalait à la vie de 1000 prisonniers. Et donc, ils les ont échangés, 1200 prisonniers palestiniens. C'était principalement des prisonniers, en tout cas, du Hamas, parce que c'était le Hamas qui avait géré les négociations, mais pas que. Et donc évidemment, en fait... Les célébrations pour quand, lorsqu'un prisonnier sort, c'est en Palestine, c'est vraiment quelque chose de, tout le trajet que le prisonnier fait de la prison, depuis la prison jusqu'à son village, tous les autres villages qu'il traverse, il le sait, il participe à cette célébration. C'est vraiment quelque chose auquel tout le monde veut participer. Donc évidemment, dans ces moments-là, il y avait eu c'était compliqué parce qu'il y avait plusieurs moments d'attente, on savait pas quand ils allaient vraiment sortir, aussi quels étaient après les parce qu'ils sont bien sûr ils sont sortis, mais beaucoup d'entre eux après peu de mois après ils ont été réarrêtés parce qu'en fait c'était pas clair quelles étaient les règles qu'il fallait, les conditions qu'il fallait qu'ils respectent. Donc Samir Issaoui qui était sorti qui était condamné à la perpétuité, qui était sorti dans ces cadres-là, il a été réarrêté parce que ils l'ont retrouvé dans la banlieue de Jérusalem et en fait il a découvert qu'il pouvait pas sortir de Jérusalem, mais ça c'était pas clair, c'était pas écrit. Et donc beaucoup des prisonniers qui sont sortis, ils ont été réarrêtés peu de mois après. Et le cas de Saïd, c'est différent parce que Saïd, c'est vrai. Et donc, évidemment, ces moments de ces moments, de, ces échanges qui arrivent, ou ces moments de délibération un peu collective qui arrivent à la fois quand il reprend des négociations ou quand il y a des échanges des prisonniers de ce type-là. C'est très dur pour les personnes qui restent, pour les prisonniers qui restent, parce que ils se disent, bah, si on sort pas, à la fois ils sont évidemment très contents pour leurs camarades, souvent ils ont des proches en prison qui vont sortir, mais en même temps ils se disent, si je sors pas là, je sortirai jamais. Et la famille, c'est pareil, et pour les familles c'est la même chose. Donc le cas de Saïd, c'est un peu différent parce que lui, justement, il est pas sûr, il avait participé il avait tué un colon comme Nizar, et donc il avait été lui aussi condamné à la peine à perpétuité. Mais lui, il n'était pas sorti dans le cadre des accords d'Oslo, de l'échange Shalit, et il est sorti un peu par hasard dans le cadre des négociations qui avaient commencé mais qui n'avaient abouti à rien en 2014, je pense. Et donc moi, je suis retournée après. Je l'avais jamais vu, mais tout le monde en parlait. Donc je voyais sa tête partout. Il y avait des photos partout. Il y avait des graffitis avec son visage. Et donc je l'ai rencontré et j'ai pu faire un entretien avec lui. Et donc le moment du, évidemment, enfin les moments où il est sorti, enfin sa mère. Sa mère pensait ne jamais plus le voir. Il y a eu, enfin, c'est tout le village participe à ces célébrations qui durent des jours, parfois même une semaine. Il y a tout aussi les anciens camarades des prisons qui viennent, les familles des prisonniers qui sont pas sortis mais qui étaient en prison avec lui qui viennent. La plupart des prisonniers qui sortent a des messages, des lettres. Donc ils font tous le tour un peu de toutes les familles des prisonniers qui avaient été en prison avec lui. Donc c'est vraiment des célébrations auquel participe un peu tout le peuple. Et voilà.
Et déjà, merci à tous et à toutes d'être venus.
Si.
Vous venez d'entendre Asia Zaino, qui était à Terra Nova le 16 février 2017 pour présenter son livre « Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens » paru aux éditions Agone.
Radio Livre Dormir.